France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Des mémoires à l'italienne ce samedi dans Plan Large avec Francesca Comencini et Roberto Minervini et aussi Elio Petri, vu par Sophie Catherine Gallet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Ce sont trois cinéastes italiens qui s'emparent de Plan Large aujourd'hui. La première est elle-même la fille d'un grand réalisateur transalpin, l'un de ceux qui, avec Mario Monicelli et Dino Risi, ont façonné la comédie à l'italienne des années 60. Pain, amour et fantaisie, La Grande Pagaille, L'Argent de la Vieille ou Le Grand Embouteillage ont fait de Luigi Comencini un des plus acérés portraitistes de l'Italie, du miracle économique de l'après-guerre. Mais ce fut aussi un des plus grands cinéastes de l'enfance, de L'Incompris à un enfant de Calabre, en passant évidemment par un de ses chefs-d'œuvre, son adaptation en feuilleton télévisé, on ne parlait pas encore à l'époque de mini-série, Des Aventures de Pinocchio. Pas évident d'être la fille d'un tel homme, même quand il s'exclamait volontiers que pour lui, la vie comptait plus que le cinéma. Prima la vita, poi il cinema. 40 ans après un premier film autobiographique, Pianoforte, qui racontait sa dérive adolescente dans la drogue, comme beaucoup de sa génération, et après une carrière de fiction, de documentaires et de séries télévisées, Gomorra et Django, c'est elle derrière la caméra. Francesca Comencini, encouragée en cela par le grand Marco Bellocchio, s'est replongée pour Prima la Vita dans ses souvenirs d'enfance, d'adolescence et de jeunesse pour raconter ses rapports complexes avec son père en un chant d'amour à lui et au cinéma qui se concentre sur leur rapport exclusif. Ces trois sœur et sa mère sont théâtralement totalement exclus du film, et un film qui prend aussi parfois la forme d'un conte. Elle s'en expliquera dans un instant, dans un français parfait, dont le film explique notamment l'origine. Nous irons ensuite à la rencontre de Roberto Minervini, cinéaste italien lui aussi, mais qui depuis 25 ans filme l'Amérique où il s'est installé. Sa première fiction après d'extraordinaires documentaires dans le sud des États-Unis l'a conduit au Montana pour filmer une patrouille perdue dans une guerre de sécession à laquelle elle ne comprend pas grand-chose. Ce sont les damnés et ils en disent aussi beaucoup sur l'Amérique d'aujourd'hui. En fin d'émission, Sophie Catherine Gallet nous racontera comment notre troisième cinéaste italien, Elio Petri, a remporté une palme d'or en 1972 avec la prise de conscience politique d'un très staccanoviste ouvrier spécialisé d'une usine milanaise. Mais pour l'heure, on se rend sur le plateau de tournage des aventures de Pinocchio à cette heure magique qu'en italien on appelle la luce a cavallo, la lumière à cheval.
Via! È ancora in campo, vai via! Sei in campo! Sveglia! Via! Ancora in campo, via!
Silenzio!
E azione!
Guarda, questa è la luce a cavallo. È bella, vero? Vieni. Ma devi stare attenta però, Perché è finta, è un'illusione. Thank you.
Bonjour Francesca Comencini.
Bonjour.
Au moment de la sortie de La Nuit américaine, le film de Truffaut, en 1973, Truffaut avait déclaré dans un entretien « Je tourne autour de la question qui me tourmente depuis 30 ans. Le cinéma est-il plus important que la vie ?» Votre film avec son titre Prima la Vita, La Vie d'abord, qui n'est pas le titre original, hein, italien, on y reviendra à ce titre original. Et avec ce titre, en tout cas, et son propos, est-ce que c'est une façon de répondre à la question de Truffaut ?
Non. Je ne me permettrai pas. Déjà, ce film, La Nuit américaine, m'a un peu hantée parce que c'est un chef-d'œuvre sur le cinéma. Et moi, je n'avais jamais fait de film sur le... Ce n'est pas vraiment sur le cinéma, mon film. C'est sur le... Justement, c'est sur la question que Truffaut se pose. C'est-à-dire, c'est sur l'entrelacement entre la vie et le cinéma qui a été, pour moi aussi, la question de toute ma vie. Et est-ce qu'il répond ? Oui, apparemment, il répond parce qu'il dit « La vie d'abord ». Mais aussi, il dit que le cinéma sauve la vie. Donc, qu'il n'y aurait pas de vie possible sans le cinéma. Donc, c'est un peu un paradoxe.
Il faut dire que Luigi Comencini avait des méthodes de travail très originales parce qu'il était bienveillant.
Oui.
Ça va complètement contre l'idée du cinéaste démiurge, tyrannique, qui veut plier le monde comme ça à ses désirs. Il dit dans votre film, je n'aurais pas dû être réalisateur car j'étais trop bon, j'étais trop gentil et tout le monde considérait mon cinéma comme trop bon et trop gentil et peut-être qu'ils avaient raison.
Oui, et ça ce sont vraiment ses paroles. Et je crois que pour des raisons qui ont affaire à sa vie, à son enfance et à son tempérament trop bon et trop gentil, comme il le disait lui-même. Il a eu beaucoup d'étiquettes, mon père, qui lui ont été collées, le cinéaste des enfants, le cinéaste qui avait un peu trahi le néoréalisme, qu'il adorait. Toutes ces étiquettes l'ont fait souffrir dans sa vie. Et puis, j'aurais toujours voulu que ces mots soient entendus par des jeunes hommes aujourd'hui et des jeunes filles qui veulent être cinéastes pour leur dire « mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça qu'on est obligé d'être pour être un bon cinéaste ». À l'époque, on parlait pas encore assez de ça, et c'est pour ça que j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de questionner ce modèle de père et de metteur en scène qu'a été mon père, parce que effectivement, il est porteur de choses lié à son époque, un peu disons à l'ancienne, mais de choses aussi très dirompenti, on dirait en italien, très dirompantes, qui cassent tout en avance.
Alors revenons à ce titre original italien, puisque Prima la Vita, c'est le titre français, paradoxalement.
Pas vraiment, je vais vous raconter.
Alors dites-nous.
Le film s'appelait Prima la Vita, le scénario s'appelait Prima la Vita, et sur les claps, on marquait Prima la Vita. Et c'était le titre que j'avais vraiment choisi. Et c'est une phrase de mon père qui hurlait « Prima la vita et poi il cinema ».
D'abord la vie et après le cinéma.
Voilà, exactement. Et après, il y a une autre phrase qu'il dit pendant le film qui est « Combien de temps ça va prendre tout ça ?» lui demande sa fille. Et il répond « Il tempo che ci vuole », le temps qu'il faut. Et petit à petit, au montage, je me suis rendu compte que cette notion du temps qui m'avait pris déjà à moi, avoir dépassé les 60 ans, avoir fait plein de films, plein de choses pour me sentir assez mûre et assez forte pour faire ce film, et de la notion du temps, c'est pour ça que j'ai changé à la fin. Mais en France, en fait, on fait justice à son titre original.
Donc, il tempo che ci vuole, le temps qu'il faut, c'est effectivement le temps qu'il vous a fallu pour retourner à l'autobiographie, puisque votre premier film en 1984, Pianoforte, racontait déjà comment vous aviez traversé les années 70. Ça, on va y revenir à ces années difficiles pour l'Italie. Pourquoi est-ce qu'il a fallu justement ces 40 ans pour pouvoir retourner à nouveau à une inspiration directement autobiographique, Francesca Comencini?
Je sais pas vraiment, mais disons que dans mon premier film, je traitais quelque chose que je retraite dans ce film, qui est un rapport de dépendance à l'héroïne et d'une traversée de mon adolescence difficile. Mais dans mon premier film, il n'y a pas du tout la figure du père, qui en fait a été complètement clé. Et pour oser le faire... Oui, il a fallu du temps parce que c'était des sentiments compliqués. J'avais aussi un sentiment qui est fort chez tout le monde, je crois, qui est celui aussi de la honte presque par rapport à mon père, et aussi toujours de ne pas me sentir. Il a fallu que j'aille faire mes expériences en tant que cinéaste ailleurs pour pouvoir revenir à lui.
Un des enjeux du film, d'ailleurs, c'est comment trouver sa place.
Oui.
Comment trouver sa place, y compris dans le plan. Il y a cette scène de tournage de Pinocchio, où votre personnage de petite fille doit courir pour sortir du champ de la caméra, dans un champ, d'ailleurs. Et puis, elle n'y parvient jamais.
Où qu'elle soit, elle est tout le temps à la mauvaise place dans le champ. Et on lui crie, va y venir. En plus, comme c'est le moment de la lumière à cheval, donc qui dure, en plus, à cette époque, il y avait la pellicule, donc il fallait vraiment tourner très, 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 très vite. Et c'est une de mes scènes préférées du film, cette scène. Parce que toute personne qui va sur un plateau de cinéma se sent toujours à la mauvaise place, déjà. Et en plus, quand on est enfant, on se rend vraiment pas compte. Elle se rendait pas compte qu'elle était vraiment, que la caméra l'a filmée. Elle disait, mais qu'est-ce que je fous là? Et après, c'est un sentiment qui est important dans tout le film. Cette espèce de sensation d'être toujours dans le champ alors que tu devrais pas l'être et de pas être à la hauteur de cette grandeur, même non seulement cinématographique, mais humaine de ce père. Et aussi, après, quand la fille devient jeune, adolescente, et donc en prise avec des démons et des problèmes, c'est le père qui rentre dans le champ alors qu'il n'est pas désiré et qui a le courage de casser une porte, de rentrer dans une salle de bain, de voir avec ses yeux ce qui se passe. Et donc, c'est une réciproque rentrée dans le champ alors qu'on n'est pas demandé et qui fait en sorte que les choses se passent bien.
Trouver sa place dans le champ, c'est peut-être comprendre que sa place est derrière, qu'elle est de l'autre côté de la caméra. Ce que raconte le film aussi, c'est comment vous vous autorisez vous-même à devenir cinéaste.
Oui, c'est une grande question. Et ce dont parle aussi peut-être le film, c'est d'une transmission. Une transmission faite parce que pour mon père, le cinéma était vraiment toute sa vie. Il a été non seulement cinéaste, mais il a été conservateur de films, fondateur de la Cinémathèque de Milan. Il a fait beaucoup de métiers dans le cinéma avant de devenir cinéaste. Il l'a découvert quand il était tout petit en France, parce que ses parents étaient émigrés en France dans les années 20. Et d'une manière ou d'une autre, il nous a, mes sœurs et moi, transmis ça, cette espèce de respiration faite avec le cinéma, tout en cultivant une vie qui était complètement en dehors du cinéma. Mais après, c'est une transmission qui se passe d'une manière très autonome, et même, dans mon cas, dans une forme de rébellion, de faire des films avec lesquels il n'était pas d'accord.
Et ce avec quoi il n'était pas d'accord, c'était l'autobiographie. Oui. Or, ce que vous racontez, précisément, c'est cette très belle rencontre de Comencini avec le cinéma à l'enfance. C'est un jour où une petite amie lui pose un lapin, il va voir un film, c'est l'Atlantide de Pabst, et oui, il dira, ce jour-là, ma vie a changé, j'ai compris qu'avec le cinéma, je pouvais m'enfuir par l'imagination. Et on se dit, oui, rétrospectivement, que tous ces films de Comencini, le cinéaste de l'enfance, tous ces enfants qu'il a filmés, c'était lui.
Oui, bravo. Exactement, c'est ce que je lui ai une fois répondu, et c'est ce que je pense, même s'il le nie. Tous ces enfants qu'il a racontés, ses enfants solitaires ou même ses enfants qu'il admirait, parce qu'il avait le plateau de cinéma qui a raconté dans mon film, c'est Pinocchio. Et mon père avait le rêve total d'adapter Pinocchio. Il était dans un état de joie, d'allégresse comme ça quand il faisait ce film. Non seulement parce qu'il voulait retrouver les codes de contes de fées. Beaucoup de ces films ont une espèce de forme de conte de fées, même si d'une manière très indirecte. Et il voulait les retrouver dans un vrai conte de fées, comme Pinocchio, mais avec des codes italiens de la société paysanne, du froid, de la faim, de ces petites maisons de la Toscane, en montrant qu'il n'y a rien de plus magique que le réel. Et c'est, pour moi, c'est un de ses chefs-d'œuvre. Et donc, Pinocchio, c'était, comme dire, la revanche de cet enfant solitaire et taciturne et intimidé, parce qu'il était aussi dans un pays dont il parlait pas la langue, la France, après, oui, mais au début, non. Et Pinocchio, lui, il aimait parce qu'il était rebelle, menteur et libre. Et donc, oui, c'est vrai, il y a tout ça. Mais vous savez, c'est une conception du cinéma qui n'est pas seulement que de lui. Les cinéastes de cette génération, comme mon père, Monicelli, Risi, Scola, ce sont des très grands cinéastes qui ont eu une conception du cinéma qui était celle de faire des films qui racontent la société, qui racontent des histoires avec une narration très bien structuré, qui soit aussi très dans le fait de divertir les gens tout en les faisant peut-être, même sûrement, penser, devenir des citoyens, mais en même temps, qui refuge l'autobiographie d'une manière directe.
Film, Luigi Comencini a une très belle formule assez énigmatique. Il vous dit le cinéma te montre ce qu'il trouve.
Oui.
Comment vous la comprenez, cette formule ?
J'adore. C'est une phrase, à vrai dire, ça c'est une phrase qu'il a écrite dans un livre de mémoire que j'ai retrouvé. Il dit le cinéma c'est comme un enfant qui cherche dans la poubelle et trouve tout à coup par hasard une bille merveilleuse. Et court et dit « Papa, regarde quelle belle bille j'ai trouvée. » C'est ça le cinéma, il montre ce qu'il trouve. Moi, je l'interprète comme il travaillait, comme il faisait les films. C'est-à-dire que tu arrives sur le plateau en ayant écrit un scénario, et souvent c'était des très bons scénarios parce qu'ils étaient écrits avec des grands scénaristes et en groupe. Il y avait une forme de travail de groupe important. Donc c'était des scénarios structurés, mais en même temps, dans le cas de mon père, il y avait toujours la recherche et la place de l'inattendu et de changer tout sur le plateau grâce à quelque chose qui l'émerveille et qui était pour lui l'important de la scène.
Alors la bille merveilleuse que vous avez trouvée, c'est l'homme qui interprète votre père, oui. Fabrizio Gifuni. Oui. Et on a l'impression que c'est pour son regard que vous l'avez choisi. Oui. Vous filmez beaucoup ce regard qui regarde la petite fille, l'adolescente que vous devenez, mais aussi regardant un film, regardant la télévision, c'est-à-dire un regard de cinéaste.
Oui, merci. C'est important ce que vous dites. Oui, c'est vrai, parce qu'il a... disons, toutes les personnes qui ont connu mon père, tout souvent étaient marquées par son regard qui était très perçant, très aigu, peut-être pas facile même, parce que très analytique comme ça. Et Fabrizio Gifuni, qui est un immense acteur et qui venait de terminer la série sur Aldo Moro avec Marco Bellocchio, qui a produit mon film, donc c'était toute une circulation comme ça. Il a ce même regard qui t'étudie en silence. Et donc, c'est entre autres pour ce regard et parce que c'est un très grand acteur que je l'ai choisi et que j'ai espéré qu'il me choisisse. Et quand il a dit d'accord, je pensais que ce film serait possible.
C'est très troublant, vous l'avez dit. Il venait de jouer Aldo Moro dans la série Esterno Notte de Marco Bellocchio. Et vous jouez de cette mémoire, de cette série, oui, qu'on vient de voir, notamment parce qu'à un moment, à la télévision, on voit l'enlèvement et la mort d'Aldo Moro. Et Fabrizio Gifuni fait exactement le même geste de mettre ses doigts sur ses yeux, comme le faisait Aldo Moro dans la série de Marco Bellocchio. C'est fortuit, cette connexion entre ces deux films, ou c'était volontaire de votre part?
Alors, c'est les deux, parce que c'est un film sur la mémoire. Il y a toujours une face-à-face avec père et fille. C'est comme une parabole d'un père et d'une fille, et tout le reste du monde est exclu. Ça se base vraiment sur le théâtre de la mémoire, dont la manière dont les souvenirs sont restés obstinément pendant 50 ans dans ma tête, tous les souvenirs avec mon père. Mais après, il y a le monde politique, surtout des années 70, qui rentre souvent dans les traumas collectifs qui ont été ceux qui ont parsemé mon adolescence, dont, bien sûr, l'enlèvement et après l'assassinat de Aldo Moro et les retombées qu'il y a eu dans cette génération de tout jeunes adolescents que nous étions, qui se penchaient sur la vie et qui se sont penchés sur une vie dans un pays de mort, de violence vraiment très fort. Et c'est comme si se penchait sur un paysage de ce qui reste une révolution non faite. Donc un climat de crépusculaire et qui en quelque sorte pour moi, cette mood politique à quoi faire avec la substance de l'héroïne qui après a débarqué massivement tout de suite après. Donc j'ai voulu que ces faits qui ont été des traumas et qui se répercutent sur la relation du père et de la fille soient présents. Donc ça c'est fortuit parce que c'était écrit dans mon scénario. Après, quand c'est Fabrizio Gifuni qui avait interprété Morgue, qui a dû et qui a voulu jouer cette scène, évidemment, on a dû établir des... Il a établi, même lui, secrètement, des relations à ce personnage de Aldo Moro qu'il connaît peut-être vraiment mieux que tout le monde, parce que même avant de faire la série de Marco Bellocchio, il a fait pendant des années un spectacle sur le mémorial de Aldo Moro.
Alors, il y a les images du monde et de toute cette période des années de plomb en Italie, hein, depuis oui. l'attentat de la Piazza Fontana oui. jusqu'à l'assassinat d'Aldo Moro qui rentre dans le film. Il y a aussi des images de films, les films que vous voyez ensemble avec votre père. Alors, on peut en citer quelques-uns, comme L'enfance nue de Maurice Pialla ou le Paisa de Rossellini. Comment est-ce que vous avez choisi ces films-là, est-ce que c'est précisément parce que vous aviez des souvenirs particuliers par rapport à eux ou parce qu'ils entraient aussi dans la narration de ce que vous vouliez raconter, Francesca Comencini?
La plupart des films que j'ai choisis sont ceux exactement de mes souvenirs. Paisa, en l'occurrence, c'est vraiment un souvenir, c'est un des derniers grands souvenirs avec mon père, son émotion. Et alors qu'il était en train de tourner son dernier film, c'est un dimanche, il regarde Paisa et sa réaction, c'est quelque chose qui m'est resté. Et L'enfance nue, c'est parce que c'est un film... J'ai pas le souvenir qu'on l'ait vu ensemble à Paris. On a passé beaucoup de temps ensemble à Paris. On a beaucoup été au cinéma. Mais c'est un film... Déjà, Sylvie Pialla a coproduit le film. Maurice Pialla est un cinéaste immense que j'adore. Et L'enfance nue, c'est un film qui aurait pu être parfaitement un film que mon père aurait aimé, vraiment. Tous les autres films cités sont les films qui ont été physiquement sauvés par mon père. Ce sont des copies, parfois très très rares, qu'il a sauvées quand il est rentré à Milan, après la période d'émigration en France. Il a sauvé énormément, avec Alberto Lattuada et Mario Ferrari, ils ont sauvé énormément de copies de films dans les Il Macero, je sais pas comment on dit, où les pellicules étaient détruites, étaient effacées, détruites pour récupérer le matériel, ou dans les salles, petites salles de paroissiales, avant qu'ils soient détruites, et donc j'ai retrouvé le fond à Milan, avec lequel la Cinémathèque a été fondée, et tous ces films sont ceux qu'il a, dont deux qu'il a tournés après, parce qu'il y a un Pinocchio, le premier oui. Pinocchio.
Un Pinocchio muet magnifique. Pinocchio
muet magnifique de Julian Tamor, qui est de 1916. Et il y a aussi un petit garçon qui dort au bord d'un fleuve, qui commence et finit le film. Et ça, c'est un film de 1911, qu'il a sauvé aussi, d'Umberto Paradisi, qui est Cuore, qui est un autre grand livre italien, qu'il a sauvé à 18 ans et qu'il a fait à 60 ans.
Et ce petit enfant, on le voit au début, c'est assez énigmatique, et à la fin, on se dit que c'est votre père, peut-être.
Oui, c'est comme le rêve, non? Au début, il dort, et à la fin, quand le père s'en va, il se réveille.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci à vous.
Avevo una ferita in fondo al cuore. Soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente, ma mentivo. Piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte. Non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà, e si fermerà.
Prima la Vita de Francesca Comencini est sortie en salle ce mercredi. À noter que la Cinéthèque, la cinémathèque en ligne des cinéastes, en profite pour faire un focus sur Luigi Comencini en proposant trois de ses chefs-d'œuvre, L'Incompris, L'Argent de la Vieille et Ses Aventures de Pinocchio, qui sont au cœur du film de sa fille. Comme toujours, pour gagner des abonnements d'un an à la Cinéthèque, c'est en surveillant de très près le fil Instagram de France Culture. Vous écoutez précisément France Culture et dans Plan Large, on quitte les années de plomb italien pour une autre zone de guerre, une vraie celle-là, la guerre civile américaine qui a déchiré le pays encore jeune, de 1861 à 1865, et qui laisse encore des traces aujourd'hui. C'est là encore un cinéaste italien qui est à la manœuvre, mais ça fait déjà 25 ans ou presque qu'il vit aux États-Unis et qu'il les filme. On doit en effet à Roberto Minervini des documentaires exceptionnels sur les marges de l'Amérique, au Texas, en Louisiane, comme ces deux derniers, The Other Side et What You Gonna Do When the World's on Fire. Pour sa première fiction sur une patrouille perdue dans les immensités encore non cartographiées du Montana, pendant donc la guerre de sécession, il a organisé un dispositif, pour le coup tout à fait documentaire, réunissant des acteurs non professionnels du cru, mais aussi des protagonistes de ces documentaires, en leur disant seulement qu'il y aurait un avant, un pendant et un après la bataille avec des ennemis invisibles, laissant ces personnages décider de ce qui allait se dérouler. Une façon, encore une fois, de sonder l'âme de l'Amérique d'hier comme d'aujourd'hui. Roberto Minervini.
When you're walking back and forth, just take your eyes and kind of scan along the top of the ridge line, sort of memorize where all the trees and bushes are. And when you bring your eyes back across, look for something different, look for something to change. If you're staring up there and you're trying to look for a whole man, you'll never see it. Just look for a part, a piece of something. And just keep looking at it till you can tell what it is.
What are we at, 150 yards?
It's about 200 at the top of the ridge. When this rider came across here, they scared up a crow. And I heard that, heard it come across the ridge, and they crossed right at the same spot that crow flew up. So just watch out for anything different, anything changes.
Bonjour Roberto Minervini.
Bonjour.
On pourrait peut-être commencer par parler de votre film avec le premier plan. On y voit deux loups, puis une meute qui dépèce un animal mort. Pourquoi avoir commencé votre film, Les Damnés, avec ce plan-là?
That is the last thing I filmed.
C'est la dernière chose que j'ai filmé pendant le tournage. Vous voyez que la neige est en train de fondre. Le printemps arrive.
En
filmant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de si brutal. Je pourrais développer la façon dont on a tourné, mais ce n'est pas vraiment la question, on n'a pas le temps. Simplement, je peux dire que ça a été filmé très naturellement, dans la nature. Et que c'est... Effectivement, ces loups étaient en train de festoyer sur un cerf mort.
Living and dying that happened just completely organically.
Et ça s'est passé complètement naturellement. C'était une question de vie, de mort. Il n'y avait rien d'aberrant. C'est quelque chose qui arrive à la nature. Je me suis rendu compte que cette brutalité était visuelle seulement. Il n'y avait rien de politiquement brutal. Et j'ai voulu commencer le film parce que ça donnerait un sentiment de peur. Et puis, ensuite, le film, peut-être, nous fait réaliser que la seule chose aberrante sur Terre, c'est finalement les humains. Voilà pourquoi le film démarre ainsi.
Est-ce que c'est un film auquel vous pensiez depuis longtemps, ou est-ce que les événements récents des États-Unis, des quatre dernières années, le 6 janvier en particulier, ont déclenché chez vous particulièrement l'envie de ce film?
The film is born, you know, it is a subproduct of recent events in American politics.
C'est effectivement le résultat des événements récents aux États-Unis. Je travaillais sur le général Custer.
unstable politician,
qui était, c'était quand même quelqu'un qui adaptait les valeurs du passé au présent. Et puis est venu Donald Trump, et puis est venue cette nouvelle droite aux États-Unis. Effectivement, ça a commencé en janvier 2021. Et non seulement on a vu que la démocratie américaine est bien fragile, mais aussi la pornographie, le côté très masculiniste, musculaire. On a vu des gens s'habiller comme des vikings. On a vu les gens montrer leurs biceps. Je me suis dit que ce n'était pas seulement une question de division en Amérique, mais aussi le retour d'une politique musculaire, masculine, de domination. De domination physique. Et j'ai voulu revenir à un temps, au début de la guerre, de la première guerre, à un moment où il fallait finalement, pour survivre, ne compter que sur ses propres capacités. J'ai voulu revenir à un moment où la guerre était physique et que c'était des hommes, des hommes blancs qui se battaient seulement. Donc, en partant de la géopolitique d'aujourd'hui, j'ai voulu revenir à un temps où les hommes forts, avec leur propre force physique, se battaient pour l'Amérique, pour faire de ce pays un pays meilleur. Et même si l'époque est baignée dans une sorte d'unité idéale, idéalisée, c'est quand même à ce moment-là que nos divisions ont commencé.
Oui, on a l'impression effectivement avec ce film que vous essayez de rentrer dans la psyché américaine, d'essayer de comprendre comment eux-mêmes se représentent leur pays et les raisons pour lesquelles ils sont là. Dieu nous a donné un pays, il faut le défendre. On entend par exemple dans ce film.
Yeah, again, very interestingly, was Abraham Lincoln.
C'est que Abraham Lincoln qui a décidé pendant la guerre de sécession que l'Amérique se battait pour un seul Dieu, pour quelque chose. Il a unifié l'Amérique. Il a donné à l'Amérique une raison pour se battre. Et c'est là le début de l'héroïsme. Dieu et le courage sont liés. Dieu est un héros de pouvoir. Ce n'est pas quelqu'un de forcément bienveillant. Il y a un certain degré d'héroïsme dans tout ça, qui est une façon de penser extatique, l'idée du sacrifice, l'idée de mourir pour Dieu. Et quelque part, ça existe encore toujours en Amérique. Se battre, c'est le combat d'un héros pour Dieu. C'était crucial dans le débat pendant la fabrication de ce film. Tuer pour Dieu, c'est tuer pour une cause, tuer pour quelqu'un. Ce que j'aime dans le film, qui s'est fait petit à petit, chaque jour après l'autre, c'est qu'il y a un attachement, un sentiment religieux qui, quelque part, a une incidence. C'est un exercice qui nous a beaucoup soulagés, qui nous a aidés et qui aide les gens. Dieu est présent même dans un moment de distraction et de destruction. La pensée de la guerre est peut-être un message. Peut-être que ça continue chez les gens, ça grandit chez eux, ça leur permet finalement de maintenir des mensonges aussi pendant de longues périodes, détruire pour le meilleur, détruire pour Dieu.
C'est d'autant plus troublant que ce que disent vos personnages, ce n'est pas vous qui l'avez écrit. Comme vous le dites, le scénario s'écrit au jour le jour, mais les dialogues, ce sont vos personnages et les personnes que vous filmez qui les inventent. Donc ça parle vraiment de l'Amérique d'aujourd'hui.
Oui.
J'ai choisi les comédiens pour que représenter effectivement des gens d'aujourd'hui. J'ai besoin de gens qui parlent et qui disent leurs pensées plus que j'ai besoin de comédiens.
that has worked with me on the project has something to say that it's relatable.
Et quelque part, il y a une sorte de confiance que l'on peut, que j'essaie d'obtenir d'eux et qu'ils donnent eux-mêmes au film. Et je les vois finalement étrangement défendre des idées, qui sont des idées nécessaires pour leur personnage, construire un pays. La guerre, c'est dans la Bible. Pour eux, pour ceux qui défendent cette idée, c'est très choquant de se trouver dans une position étrange avec d'autres. Parce que c'est finalement ça, le cœur de la division, c'est ça ce que le film tente d'expliquer. Des gens ensemble qui sont très différents. Et c'est difficile pour eux d'être confrontés à ces contradictions-là. De ce Dieu omniscient et la destruction que le même Dieu autorise. Donc oui, ces gens sont entrés dans le projet avec leurs croyances et c'était fascinant.
Dieu est omniscient, mais l'homme ne voit pas grand-chose dans votre film. Vous utilisez des lentilles spéciales, vous utilisez des longues focales, il n'y a pas de profondeur de champ. Ce que vous racontez, c'est que dans ce grand espace, bien, on ne voit rien.
Yeah, number one, blind faith is a fuzzy concept.
Tout d'abord, c'est un concept assez étrange. Dieu est omniprésent peut-être. Il sait tout et pourtant l'homme ne voit pas grand-chose. Et c'est comme s'il y avait un court-circuit entre des idées hautes et grandes et puis la pratique, la réalité. Chez ces hommes qui ne voient pas grand-chose. Et ça amène bien des problèmes. Esthétiquement, effectivement, ces focales-là créent finalement, mettent le point sur une sorte d'image, une imagerie, et qui dit que la guerre, on ne peut pas y échapper du tout. La guerre, elle éradique tout ce qui est beau. Elle ne permet pas la beauté. Et donc, c'est en contraste avec la représentation des grands films de l'Ouest, où vous savez, western, les films de guerre. Il faut se rappeler que les grands paysages américains a été fait pour nous donner cette idée qui est très politique. C'est qu'il y a toujours quelque chose de juste et de fondamentalement beau dans la guerre, dans l'armée, dans les soldats. Il y a de la beauté. Et donc, quelque part, j'ai voulu éliminer cette idée-là du film, esthétiquement. Et la seule chose qui nous reste, c'est l'expérience de la guerre, c'est l'expérience de ces militaires.
Et l'expérience de la guerre, en l'occurrence, c'est beaucoup d'ennuis. C'est pas des combats en permanence, c'est 95% de moments où on attend. Et c'est ça que vous filmez, c'est aussi cet ennui-là, Roberto Minervini.
Absolutely.
Tout à fait. La guerre, c'est surtout de l'attente. Mais c'est aussi quelque part se mettre en condition. Parce que la guerre, ça implique la survie. Je refuse personnellement de créer un spectacle, de proposer un show avec de l'adrénaline, vous savez. La guerre, c'est un sport. C'est comme un jeu vidéo. Et quelque part, cette façon de montrer la guerre comme un jeu vidéo, c'est inexact et puis c'est aussi politique.
Tedium is also tedium as a boredom is also
l'ennui, l'attente. C'est quelque chose qui est complètement ostracisé dans le cinéma scénarisé. Un scénario très rarement nous donne vraiment du temps. Et il y a des écoles de pensée, les grands maîtres russes par exemple, qui ont traité ça. Mais dans le Le film de guerre, il n'y a pas la place pour l'attente, il n'y a pas de place pour le rien. C'est tout le temps, on est à devoir subir ce spectacle excitant, ce qui a vraiment un effet très fort sur les spectateurs. Donc pour moi, c'était important d'aller complètement ailleurs. Cette latente, et aussi cette expérience d'être ensemble pour ces hommes.
Vous aviez jusque-là beaucoup filmé le sud des États-Unis et ses habitants, des sudistes. Donc ici, vous allez à la fois au nord et à l'ouest et vous filmez des nordistes. Est-ce que ça a été une façon pour vous justement d'élargir votre compréhension de l'Amérique, ce pays où vous habitez depuis bientôt 25 ans ?
Yeah, I lived in Texas for 14 years.
14 ans au Texas, oui.
Before making this film, I moved to Brooklyn, New York.
Je suis parti à Brooklyn avant de faire ce film. C'était un choix nécessaire. J'avais besoin finalement de trouver de l'adrénaline.
I think my filmography,
ma filmographie, mon cheminement de cinéaste et en tant qu'homme et un citoyen américain, j'ai quitté le sud. Et j'ai gagné de confiance, un regard sur l'Amérique plus large, sur l'espace aussi. Quelque part, j'ai brisé le cordon ombilical avec le Sud. J'ai voulu auparavant beaucoup raconter le Sud. Et il s'agissait pour moi de prendre du recul et de trouver un sujet plus large, de trouver un terrain américain qui soit plus entier.
Est-ce que vous vous sentez maintenant un vrai réalisateur américain, Roberto Minervini, ou vous êtes encore un Italien qui regarde les États-Unis ?
I'm not an American director.
Je ne suis pas un réalisateur américain. L'Amérique ne finance pas mes films. L'Amérique, en tant que pays, mes films n'y sortent pas. Les films sont absolument invisibles sur la plupart du territoire, à part... New York et Los Angeles. Je suis un citoyen américain et je le ressens ainsi. J'ai avec moi un bagage culturel et je me sens quelque part plus américain encore, plus entièrement américain. Je suis le prototype finalement de l'immigrant américain qui a son expérience d'ailleurs. Mais en tant que réalisateur, j'ai été tellement nomade dans ma vie. J'étais inspiré par le monde entier. Et vous, puisque vous me posez la question, vous me demandez finalement quelque part qu'est-ce qui m'inspire. Et c'est peut-être pas une coïncidence. Je suis inspiré par le cinéma qui toujours met vraiment la politique en question et montre les clashs, les différences raciales. Sociale, politique. Je m'intéresse les Brésiliens sous la dictature, si vous voulez. Il y a là tout un cinéma qui est né.
Est-ce que vous avez quand même le sentiment que quelque chose s'est passé avec ce film en particulier dans votre rapport à la fiction, notamment, même si votre documentaire faisait déjà beaucoup appel à des mécanismes de fiction, mais est-ce que ça vous donne envie de poursuivre dans cette voie ?
Yeah, for me, film is.
Pour moi, le cinéma,
I think of films in terms of language.
C'est une langue. C'est un langage. Et ma carrière, ma filmographie, est une recherche. Une recherche d'une forme, d'une syntaxe, d'une façon de transmettre, de communiquer avec un public du monde entier. Mes films essaient toujours de trouver une synergie entre un langage de fiction et puis une observation documentaire. J'ai l'impression que j'atteins une nouvelle maturité. Je me sens finalement à l'aise dans les deux langues. Et c'est sûr que je vais continuer ma recherche pour utiliser ces deux langues, le documentaire et la fiction, pour transmettre des idées en termes plus larges. Et je suis très heureux de la position dans laquelle je me trouve, dans ma croyance, bien sûr, d'abord dans l'esprit d'observation du documentaire, et puis enthousiaste à l'idée de s'ouvrir à quelque chose, à une langue qui est effectivement plus fictionnelle.
Merci beaucoup, Roberto Minervini. On va suivre vos prochaines aventures, donc.
Thank you very much.
Les damnés de Roberto Minervini est sorti lui aussi en salle ce mercredi. Merci à Harold Manning d'avoir traduit les propos du cinéaste, puisqu'il a choisi, tout italien qu'il soit, de s'exprimer en anglais. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, il est l'heure d'ouvrir le journal du cinéma avec quelques autres films sur vos écrans. Cette semaine, ça commence par un grand retour.
Profitez de ces quelques secondes de calme, car devinez qui est de retour.
On n'est peut-être pas les plus qualifiés pour faire le job, t'es en large. Et moi, je suis complètement cinglé.
Ah, quand on est con, hein.
T'es chiant pour ton entourage.
Vaut mieux être seul que mal accompagné.
Non, mais t'es pas trop fatigué de moi, quand même. Tu m'aimes?
Pas spécialement.
Did not realize these images were still available. Much less of any consequence. May I keep this?
Of course you may. And very artistic.
Terrain nous intéresse.
Moi, je travaille sur ce terrain.
Il y a des intérêts monstrueux en jeu, des intérêts qui te dépassent.
Just like lui.
Bon, arrête maintenant. Hein. Ne fais pas comme si tu avais le choix, tu as compris?
Nothing matters now, not the land, not the money, not the woman. I came here to see you. Because I know that now you'll tell me what you're after.
Sur vos écrans cette semaine, le plaisir régressif de retrouver sur grand écran, presque 90 ans après leur début, le plus bégayeur des cochons et le plus hystérique des canards. Dans un dessin animé à l'ancienne mais au loufoque inchangé, c'est Looney Tunes, Daffy et Porky sauvent le monde de Peter Brongart, à voir avec ou sans vos éventuels bambins. Des corps qui vieillissent ou aspirent à la jeunesse éternelle, une famille nombreuse aussi catholique qu'écolo et un médecin hypochondriaque, c'est le retour sur grand écran des documentaires déjantés du belge Jean Libon, ça s'appelle Striptease Intégrale, et ça va jusqu'au cœur de l'âme et des tripes, âme sensible, s'abstenir. Un film monumental qui s'affiche comme tel, un peu trop sans doute, c'est le très favori des Oscars, surtout depuis l'accident promotionnel de l'Emilia Pérez de Jacques Audiard. The Brutalist de Brady Corbet, parcours dans l'Amérique antisémite de l'après-guerre d'un architecte juif du Bauhaus, dont on aurait aimé qu'il explore plus ses souterrains et les explicite moins. La destruction de la bande de Gaza vue par ceux qui la subissent, c'est From Ground Zero, une anthologie de 22 courts-métrages tournés sur place entre janvier et juin 2024 et rassemblés par le cinéaste palestinien Rachid Macharawi, qui met des images bouleversantes et des visages sur une guerre qui en manque tant. Un homme qui dit non et se retrouve à son corps défendant une image, justement, et une légende, c'est le Mohican, nouvelle pépite cinématographique venue de Corse. Son réalisateur Frédéric Farrucci nous avait parlé la semaine semaine dernière de ce western néo-fordien. Lutte pour le territoire et western encore, mais totalement spaghetti, on ne sort pas de l'Italie. C'est enfin, on en entend la musique signée Ennio Morricone, Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, de retour en salle en version restaurée. Western toujours, côté fabrication du mythe. Mercredi prochain ressort en version restaurée un film trop peu vu de Robert Altman, Buffalo Bill et les Indiens, avec Paul Newman dans le rôle titre. J'aurai le plaisir de présenter le film jeudi prochain à 20h au cinéma Grand Action à Paris. Et ça tombe bien car ce jour-là, le grand Bob aurait eu 100 ans. Une belle programmation à vous annoncer encore, c'est au cinématographe de Nantes. Programmation qui met des images sur le livre passionnant dont Hélène Frappa était venue parler dans Plan Large il y a 2 ans, le 7 janvier 2023. 3 femmes disparaissent à l'occasion de sa parution en poche. On y verra donc Les oiseaux et Pas de printemps pour Marnie d'Alfred Hitchcock, le Body Double de Brian De Palma et la relecture de Suspiria par Luca Guadagnino. C'est du 21 février au 23 mars et Hélène Frappa y signera son livre le 22 février. Ceci annoncé, c'est l'heure de l'embauche, même si d'aucuns tentent de vous décourager.
Aziendale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Des militants gauchistes qui, devant les grilles d'une usine, tentent en vain, au cri de « più soldi e meno lavoro », plus d'argent et moins de travail, de décourager les ouvriers d'entrée. Un OS Stakhanovich qui ne les écoute pas et qui semble ne faire qu'un avec sa machine, sur les consignes de sa direction dans les haut-parleurs et la musique concrète et opératique d'Ennio Morricone, c'est « La classe ouvrière va au paradis », le film qui valut au cinéaste italien Elio Petri sa Palme d'Or en 1972. Palme d'Or ex aequo avec son confrère transalpin Francesco Rosi pour l'affaire Mattei. Il faut dire que les deux films partagent le même acteur principal, le très intense Gian Maria Volonté, ouvrier dans l'un, patron dans l'autre, et qui pour ça a reçu lui-même une mention spéciale du jury la même année à Cannes. La réception du film à l'époque fut sans doute un rien obérée par le contexte politique très clivé des années 70, quand la lutte des classes était encore au cœur des discours et des combats. Comment est-ce que le film résonne aujourd'hui, Sophie-Catherine Gallet?
Il résonne assez singulièrement. Alors, il faut rappeler aussi que Elio Petri crée donc une grande partie de son œuvre, donc dans une des décennies peut-être les plus politiques de l'Italie, et qu'il était lui-même aussi très politisé. C'est une décennie qui s'est ouverte avec donc de nombreux conflits sociaux, qui s'est prolongée avec les Brigades Rouges et qui s'est clos avec l'assassinat d'Aldo Moro, un assassinat d'ailleurs littéralement
raconté. On en parlait tout à l'heure.
Voilà, sous toutes ses coutures aussi par un autre cinéaste italien, Marco Bellocchio. Et le livret qui accompagne l'édition DVD de La classe ouvrière est d'ailleurs très très fourni sur la question justement du contexte politique de ce film. Mais alors ce qui forme un des centres névralgiques de la classe ouvrière, c'est que malgré cet enracinement très clair du réalisateur dans une pensée politique, l'œuvre qu'il produit n'est pas pour autant ce qu'on pourrait appeler un film militant. C'est un film alors certes très clairement engagé, mais qui n'exclut pas au contraire une part de zone d'ombre et d'ambiguïté. Alors, nous sommes donc ici donc avec Loulou Massa, employé d'usine ayant une famille à charge. Loulou assure un rendement particulièrement efficace, lui permettant d'avoir un certain confort de vie, mais dont on ne le voit pas profiter tant le travail de l'usine l'éreinte et même le zombifie. Alors, Il y a d'abord et d'emblée en fait l'idée de la répétition, d'une mécanique épuisante, racontée avec une forme de drôlerie cynique qu'on rapprochera forcément des temps modernes de Chaplin. Une mécanique symbolisée dès l'introduction du film par une danse de l'habitude. Arrivée à l'usine, prise en main des machines, massage des lombaires, échauffement des pieds, toute une chorégraphie qui est accompagnée par la musique d'Ennio Morricone, composée, elle, de mélanges de bruits d'orchestre et de bruits mécaniques de l'usine, utilisant de rythmes marqués pour signifier ce rendement imperturbable de la machine. Et dans cette machine bien huilée, Loulou sera cependant victime d'un accident, un doigt coupé, qui lui permettra soudain de s'ouvrir à d'autres mondes. Celui des étudiants engagés, des ouvriers syndiqués et de la solidarité. Mais l'enjeu politique du film ne se produit pas exactement, ou plutôt pas seulement à cet endroit. Il se situe surtout dans la trajectoire de ce personnage, qui n'est pas le héros parfait de la lutte, qui est plutôt donc un ouvrier effectivement staccanoviste, pas tout à fait aimable de surcroît, un personnage qui, par ses ambiguïtés, nous permettra d'entrer avec une forme de scepticisme dans chacun des nouveaux mondes qu'il pénètre, restant sur nos gardes. Ce personnage, qui scruté au plus près par une caméra qui ne le lâche jamais, suit une évolution qui se construit peu à peu dans une sensation en fait de cinéma vérité, grâce à une performance absolument éblouissante de Gian Maria Volonté, perdue entre l'épuisement, la rage, le désespoir, fine ligne dont le craquement se fait ressentir dans ce discours où il harangue ses collègues.
Adesso cosa sono diventato? Guarda, sono diventato una bestia, guarda, sono diventato.
Beh, sei una bestia, mica noi altri.
Lo studente, lì fuori. Dice, aspetta, concentro. Dice, ecco, che noi siamo come le macchine, capito? Che io sono una macchina, io sono una puleggia, io sono un bulone, io sono una vite, io sono una cinta di trasmissione, io sono una pompa! E lei la pompa è rotta! No, più! E non c'è più Enzo di aggiustare la pompa adesso!
Alors, il n'est pas nécessaire de comprendre l'italien pour apprécier le formidable jeu d'acteur qu'on entend là de Gian Maria Volonté. Dans cet extrait, donc, où il se rend compte du peu d'importance qu'il a dans ce vaste système à qui il a donné sa santé et son doigt, à ce système qu'il a transformé en bête de somme. Alors, cette performance de Volonté est pour beaucoup dans la rudesse désespérée qu'est ce film, ancrée dans une forme d'hyper-réalisme qui pourrait bien cependant décrocher totalement de la réalité et laisser le personnage sombrer dans la folie. Il y a donc d'abord la répétition, puis le tournoiement, l'enfermement dans des lieux circonscrits, l'usine, les machines, les collègues, l'appartement familial, une géographie mentale dont chaque sentier semble tourner en rond, être un cul-de-sac, et qui permet aussi une sensation d'immersion totale dans cette description âpre de l'usine, des luttes ouvrières et du lien avec le mouvement étudiant qui, donc chaque matin, rappelle aux ouvriers leurs conditions et la nécessité de se rebeller, mais qui finissent par abandonner Loulou après qu'il ait été licencié. Dans cette géographie qui devient de plus en plus suppliciée, Loulou se retrouve donc seul, condamné, semblerait-il, à la folie. Le lien entre folie de l'esprit et aliénation du corps se dévoile alors, et c'est à rebours que l'on comprend que c'était justement l'endroit vers lequel tendait le film depuis le début, par cette image hachée, tournoyante, rugueuse, à en faire perdre littéralement la tête. Mais le scénario, écrit avec brio, retourne finalement cette expectative du spectateur dans une dernière scène saisissante et peut-être encore plus cruelle au fond. Loulou erre dans son appartement, ne sachant plus que faire de ce corps cassé, heurté, et se confronte à la masse de consommation qu'il a construite, les dizaines de réveils, jusqu'à cette nouvelle considérée comme excellente par tout son entourage. Loulou sera réintégré à l'usine. Une usine qu'il retrouve donc, avec sa mécanique, ses rituels, ses habitudes, dans une autre aile cependant, cette fois-ci à la chaîne. Chaque nouvel objet arrivé devant Loulou fait craindre au spectateur un nouvel accident par un montage saccadé, tandis que le bruit environnant oblige Loulou à crier pour tenter de raconter à ses collègues le rêve qu'il a fait cette nuit. Un rêve de mur, un rêve d'évasion, un rêve de mort.
Thank you.
Merci Sophie-Catherine Gallet. La classe ouvrière va au paradis d'Elio Petri, ressorti en salle il y a quelques semaines dans sa copie restaurée, et il est disponible en coffret DVD Blu-ray chez Tamasa. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Alexandre Abergel, Eric Audra et Grégory Wallon. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et Anna Gutowski-Bakouche et réalisée par Anne-Laure Chanel.